Et nous nous retrouvons pour Focus, la seconde partie de notre émission. Aujourd'hui, pour cette spéciale musique classique, nous avons le plaisir de recevoir Jean-François Lemaréchal, bonjour.
Bonjour.
Qui est maître de conférences en chimie et qui poursuit également des recherches avec des linguistes sur la didactique et les interactions, mais qui est surtout le chef de chœur de la chorale de l'ENS. Alors Nina, Laure, vous avez sûrement de nombreuses questions à poser à notre invité, c'est à vous.
Bien, au fond, la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est quelle place occupe la musique classique dans votre vie de tous les jours ?
Eh bien, c'est une place qui a évolué avec l'âge, parce que ça, j'ai fait de la musique depuis tout petit. Ma maman m'attachait un tabouret de piano, et puis c'est devenu un moyen d'échanger avec des tas de gens. Et puis, quand j'ai pris la direction du chœur, et ça s'est carrément professionnalisé, et à ce moment, eh bien, on travaille avec des professionnels, on travaille avec un orchestre. Et là, ça devient beaucoup plus intellectuel que l'émotion n'est pas absente, mais il y a toute la composante de travail qui précède.
Mais comment est-ce que vous en êtes venu à devenir chef de chœur à l'ENS ?
J'avais jamais fait de chant, j'avais jamais fait de musique chorale quand j'étais jeune, et le chœur de l'Orchestre de Paris s'est créé sous l'impulsion de Daniel Barenboim. Il a fait venir un grand chef anglais, Mac Oldham, Arthur, qui a recruté 250 choristes sur la place de Paris, et j'étais dans cela. Donc j'ai fait 10 ans de musique à ce niveau, et les plus grands chefs, les plus grands interprètes de l'époque, et c'était une formation. Et ensuite, quand l'occasion s'est trouvée de diriger la chorale de l'école parce que le chef pouvait plus, et bien j'ai repris, et puis j'ai fait mes classes sur le terrain petit à petit.
Alors, on voit que vous en êtes venu à la musique classique finalement d'abord par la famille, puis ensuite c'est devenu très professionnel, vous êtes en quelque sorte rentré dans un cercle. Mais selon vous, pour ceux qui n'ont pas la chance de découvrir la musique classique dès le plus jeune âge, quelles peuvent être les voies d'accès à cette musique ? Est-ce qu'elle est finalement, est-ce que la musique classique est élitiste ?
Oui et non. Elle l'est quand vous voulez être interprète d'un instrument. Quand vous voulez chanter, vous avez votre instrument naturel et il mérite un peu de travail. Mais la musique chorale est une voie d'entrée, même pour des gens qui ont fait de la musique à un bon niveau, ce que j'étais. Et c'est une voie d'entrée vers la musique de très grand niveau, la musique du répertoire. La musique où on va jouer avec des gens qui débutent la chorale, qui n'ont jamais fait de musique, toutes les grandes œuvres. Vous avez entendu le Gloria de Vivaldi, mais le Requiem de Mozart, la messe de Puccini, etc.
Mais au-delà de l'interprétation, plus simplement finalement pour l'écoute. Est-ce que vous avez l'impression que les gens qui écoutent de la musique classique font partie d'un cercle réduit ?
Je dirais qu'il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui, de ceux qui écoutent, il y a tous ceux qui écoutent pas. Mais dans ceux qui écoutent, il y a ceux qui sont capables de trouver beau quelque chose à la première écoute. Et j'en fais pas toujours partie. Et ceux qui ont besoin d'intellectualiser le processus et qui découvrent après toute la beauté d'une œuvre ou d'une interprétation, ils sont touchés. Et c'est vraiment deux publics. Et le deuxième est un peu plus élitiste parce qu'il faut une culture. Un peu comme on aime bien le vin quand on a appris le vin, on aime bien la peinture quand on a appris la peinture. Eh bien, la musique, on l'aime vraiment en tant que professionnel quand on est capable de l'analyser, de la jouer. Mais il y a quand même énormément de gens qui découvrent, qui sont émus par un petit morceau de musique, comme vous pouvez trouver sur le répertoire.
Et donc, pour ces deux catégories, pour en quelque sorte les néophytes et les amateurs éclairés, est-ce que, si on prend l'exemple de Lyon, puisqu'on y est, est-ce que vous pensez que l'offre en matière de musique classique est satisfaisante ? Qu'est-ce qu'on peut voir à Lyon ? Est-ce que c'est accessible ? Est-ce que c'est diversifié ?
Elle est énorme. Il y a un opéra, un auditorium, je crois qu'il y a 200 chorales amateurs qui sont inscrites au registre d'Accorjoie ou affiliés. Donc il y a vraiment de la place pour tout le monde. Si vous regardez maintenant ce que font les grands ensembles, ils sont aussi financés pour faire vivre la musique contemporaine, pour laquelle, comme j'avais entendu dire avec humour sarcastique, il y a souvent des grandes premières, il n'y a jamais de grandes secondes. et ça, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Un concerto pour flaque d'eau et cailloux, bon, ça peut être dans un auditorium avec un orchestre classique, ça reste un concerto
c'est
pour flaque d'eau et cailloux.
C'est plus dur d'attirer du public, ouais. Et d'ailleurs, donc, un des prochains événements en termes de musique classique à Lyon sera l'interprétation du Messie d'Handel par la chorale de l'ENS en mai. Pourquoi avoir choisi le Messie de Handel ?
C'était pas une œuvre à laquelle je me serais dirigé si j'avais pas été convié pour une collaboration par un chœur parisien et un soliste qui dirige ce chœur, Sébastien Fournier, qui est un ancien Lyonnais, haute-contre, qui fait une carrière internationale. Et il voulait profiter de notre amitié d'une part et de notre ensemble qui joue des pièces avec beaucoup de réussite pour faire une œuvre qu'il aime bien, qu'il met si, qu'il il va venir avec sa chorale pour faire cette collaboration. Et nous allons aller à Paris également pour rendre cette collaboration.
Et donc, dans une perspective plus historique, est-ce que vous pourriez nous resituer tout d'abord Handel dans l'histoire de la musique classique ?
Oui, c'est un contemporain de Bach. Alors, si on ne connaît pas Bach et qu'on ne connaît pas Handel, ça ne sert pas à grand-chose. C'est également des contemporains de Vivaldi, dont on a entendu de la musique tout à l'heure. Les Bach et Handel sont tous les deux des gens de Saxe, des gens de l'Europe du Nord, des gens de formation protestante, qui ont été élevés avec le choral luthérien, qui ont créé à leur sens, à leur façon, de la musique de l'époque. Handel est le créateur de l'oratorio anglais, qui est un style dont le Messie est un des plus grands représentants, mais il y en a eu bien d'autres derrière. Et ça, c'est une première caractéristique. Donc là, on est au tournant, au début du siècle des Lumières, et ça fait une modification profonde. C'était le summum de la musique baroque, qui s'est éteinte avec la mort de Bach en 1752. Et derrière, il y a une période intermédiaire dans laquelle les gens ont essayé de faire évoluer le discours musical baroque, mais c'est globalement Mozart et Haydn qui ont créé la musique classique, qui était quelque chose dérivé de la musique baroque, mais qui était quand même tout autre chose, une autre structure, un autre type de public, etc.
Et alors, il me semble que si on devient encore plus précis, le Messie a, dans la carrière et dans l'œuvre de Handel, une place particulière.
Oui, particulière. Handel a fait 40 opéras, c'est énorme. Même en musique baroque où l'orchestration n'est pas énorme, il faut quand même les écrire. Si on vous demandait de recopier la musique d'Handel, vous y passeriez plus de temps que toute sa vie à lui, quoi. Donc c'est quelque chose de surprenant. Et le 13 avril, je regarde mes notes parce que c'est le 13 avril 1737 fut un grand jour pour l'oratorio anglais puisque Handel est paralysé, il s'en remettra, mais d'un seul coup, il n'est plus capable d'avoir tous les efforts qu'il faut pour monter des opéras à une époque où la musique n'est pas subventionnée comme elle l'est maintenant, où il faut se trouver tous les sous pour le faire. Et donc, il va chercher un moyen d'expression qui en dérive, ça sera l'oratorio, et qui permet de le faire avec beaucoup moins d'efforts. Il n'y a plus de mise en scène, il n'y a plus à avoir autant de grands solistes, etc. Et surtout, la couronne britannique s'était dit qu'il allait interdire la musique d'opéra pendant le carême. Et donc, pendant 40 jours, on ne pouvait plus faire d'opéra, donc on ne pouvait plus faire de fric. Et Handel a sauté sur l'occasion pour faire de la musique sacrée. Et du coup, ça devenait permis et il a pu ainsi développer un genre qui lui est propre, quoi. Il n'a pas eu d'imitation tellement.
Ah d'accord, donc très particulier. Et du coup, quelle a été la réception de cet oratorio ?
Alors celui-là, il a été d'abord très bien reçu à Dublin quand il a été créé. Et à Londres, beaucoup moins parce qu'il y a toute la partie catholique, toute la partie église qui était derrière, qui s'est dit c'est pas une façon de traiter le Messie avec tous ses airs de fête, etc. Et ça, dans un premier temps, ça a nuit beaucoup à la réception. Et puis, après, ces mêmes curés ont piqué dans le Messie plein d'air pour justement faire des airs de messe. Ce qui a également nuit à la grandeur de cette œuvre, puisque c'est devenu une musique...
rapiécée, quoi.
Voilà, c'est devenu une musique de prière. Mmh. C'était fait au début pour être une musique de scène, presque. Hein. C'est un des premiers oratorios. Handel, avant, faisait de la musique de scène, de la musique d'opéra. Et donc, il y a cette transformation profonde de l'œuvre. Et malgré ça, elle a continué d'être jouée. Et en particulier au XIXe siècle, de l'époque baroque, on ne jouait que du Handel.
D'accord.
Dans le Messie.
Mais peut-être, est-ce que vous pourriez rappeler la différence entre l'oratorio et l'opéra pour nos auditeurs ?
Alors, l'opéra se fait sur scène avec un jeu d'acteurs, avec de la machinerie des décors, avec ce côté pratiquement même jamais sacré. Ça peut être le livret, c'est-à-dire le texte peut être sur un opéra de Beaumarchais, sur un livre de Beaumarchais, ça peut être un livret moderne, ça peut être des choses écrites pour l'occasion. Alors que l'oratorio, c'est sur des textes sacrés. Et pour le Messie, on a cherché longtemps parce qu'on avait un peu perdu la trace de la personne qui avait fait la sélection des textes. Handel avait une grosse culture biblique, mais pas au point d'arriver à avoir des textes aussi subtils, aussi finement choisis et adaptés pour en faire un livret. Et donc, on a retrouvé que c'était un homme d'église qui s'appelle Charles Jensens qui a créé ça, qui était un ami de Handel et qui a fait ça pour lui.
Et lorsqu'on interprète le Messie aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que ce qui se fait, c'est souvent de rester dans cette veine protestante, sacrée ou...
Alors, déjà, on le fait rarement en entier.
Oui.
Parce que l'œuvre dure 2h30, et que 2h30 de musique, à notre époque, ça se supporte moins bien qu'à une époque où c'était la seule distraction. On allait écouter un concert, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas la vie stressée de maintenant. Donc, très souvent, l'œuvre est... soit on en fait une partie, il y a trois parties dans le Messie. Une première grande partie qui est le temps de l'Avent, la Nativité. Une deuxième partie qui est le temps de la mort, la résurrection. Et une troisième partie qui est plus courte, qui est la renaissance de l'âme chrétienne. Et assez facilement, maintenant, il y a des chefs qui décident de faire la première partie pendant le temps de l'Avent ou la seconde pendant le temps du Carême. Nous, on a choisi de se libérer des temps liturgiques et on a pris une sélection intéressante de pièces. Et pas forcément les plus connus, même si on fera l'Alléluia, parce que quand les gens viennent écouter le Messie, ils disent, mais c'est quoi? C'est pas ce qu'on croyait, etc. Et arrive à la fin l'Alléluia, et les gens
on s'est pas trompé de concert. Voilà. Très bien. Et donc, combien de temps dure la sélection de...
Une petite heure et demie. Entre une heure et quart et une heure et demie, ça sera pas d'ailleurs la même longueur à Paris et à Lyon. On va en mettre un peu plus à Paris parce qu'ils ont choisi d'autres pièces qu'on fera aussi.
Ah, donc Paris, Lyon, une tournée internationale.
Je crois que vos connaissances de géographie sont un peu limitées.
Ah, mais j'attendais la suite. Tokyo, Istanbul, Beyrouth. Est-ce que vous pouvez nous dire à Lyon, quand ou à quelle heure est-ce qu'on pourra assister à ces interprétations du Messie par la chorale?
Donc par deux fois, à Lyon 9e, c'est-à-dire Vaise, à l'église de l'Annonciation, qui est une église moderne, elle a été construite après la guerre, et qui a une acoustique intéressante, parce qu'elle n'est pas trop résonante. Pour autant, elle est spacieuse, on peut mettre 800 personnes, donc c'est un bon compromis.
D'accord.
Et... rien ne gâche rien, mais il y a des marches qui permettent de disposer le cœur sans ce qui est de logistique à assurer.
Eh bien, nos auditeurs ont noté le rendez-vous et on vous retrouvera donc en mai à Vaise.
Eh bien, merci à tous les trois. Et quant à vous, chers auditeurs, j'espère que d'ici là, vous allez vous ruer sur le rayon classique de votre disquaire préféré et le dévaliser sans plus attendre. Et nous passons donc tout de suite à la Sizaine lyonnaise, votre agenda culturel de la semaine. Alors, donc cette semaine, côté théâtre, je vous encourage à tester l'adaptation du Joueur d'échecs de Stefan Zweig à l'Espace 44 à partir du 16 mars. Pour les amateurs de musique aux consonances celtiques, alors on s'éloigne un peu de la musique classique et baroque, c'est l'occasion d'aller écouter Jim Rowlands, ex-chanteur du groupe Mirrorfield, le 20 mars à 14h30 à la bibliothèque de la Part-Dieu. Côté expo, toujours à la bibliothèque de la Part-Dieu, vous pourrez découvrir les tours en débat jusqu'au 27 mars prochain, excusez-moi, ainsi qu'une conférence le jeudi 18 mars à 18h15 sur le défi que représente la construction des tours au sein d'un aménagement durable. Et enfin, n'oubliez pas non plus la rétrospective consacrée à Ben au musée d'art contemporain de Lyon.
Ben, striptease intégrale.
Striptease intégrale, effectivement. Merci d'avoir écouté.
Tu es un auditeur comme ça. Vends ton produit, Swan.
Ah oui, vraiment, surtout qu'il est niçois en plus. Donc.
Merci. Ah, c'est ça, c'est des patriotiques.
C'est ça, c'est du chauvinisme. Incroyable. Merci d'avoir écouté Transversar.
Et retrouvez-nous la semaine prochaine pour une émission spéciale rock.
Mais dès maintenant, n'hésitez pas à cliquer sur la rubrique Anormal pour découvrir la nouvelle émission de Transistor. Il y a une vie après normal, et oui, même si c'est étonnant. Et en invité spécial, en premier invité, vous découvrirez Nicolas Demorand, ancien élève et présentateur du 6-30-10 sur France Inter. Mais avant de vous quitter, tout d'un coup, on m'apprend dans l'oreillette une nouvelle importante. Swan, je pense que nous avons quelque chose à dire.
Et oui, je crois, oui, c'est très important.
Ah, joyeux anniversaire.
C'est l'anniversaire d'Anna.
Joyeux anniversaire. Il y a un mois, on précise. Mais merci d'y avoir pensé.
Et à très bientôt à tous.